Bonjour et bienvenue à l'École de la prière, une émission qui vise à vous introduire à l'art de la prière. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le frère François-Dominique Forquin, qui est aumônier national des équipes du Rosaire. Bonjour frère.
Bonjour Xavier.
Alors vous allez nous parler aujourd'hui d'une très belle figure qui a inspiré lointainement les équipes du Rosaire, qui s'appelle Pauline Marie Jaricot, une femme laïque qui a vécu au 19e siècle. Est-ce que vous pouvez nous dire où elle est née, dans quel milieu elle a grandi, pour nous poser un peu qui elle était?
Alors, c'est une figure lyonnaise. Elle est née à Lyon. Elle vient du milieu soyeux. Donc, ceux qui ont fait fortune dans la soie et les soieries lyonnaises. Et donc, c'est une fille de la haute bourgeoisie lyonnaise. Et elle aime être coquette, elle aime les belles toilettes, puisqu'elle vient de ce milieu-là. Et un jour, elle rentre dans l'église Saint-Nizier, donc une église de la presqu'île de la ville de Lyon, et un dimanche de carême, elle entend le père Wurtz prêcher sur les illusions de la vanité. Mmh. Elle sent que cette prédication s'adresse à elle.
D'accord.
Et ça va être l'occasion d'une conversion intérieure, si bien qu'à la fin de cette messe, elle va trouver le père Wurtz, elle veut se confesser dans la sacristie. Et le père Wurtz la confesse, l'entend en confession, et là, ça va être le début d'une nouvelle vie pour Pauline Marie Jaricot.
Elle a quel âge, après? C'est encore une toute
jeune fille ou... Elle a 17 ans.
Ah oui, d'accord.
Elle est née en 1899,
elle est née en 1816. Une toute jeune fille,
ouais. Voilà, c'est ça, c'est ça.
D'accord, et à partir de là, elle a la volonté de se consacrer, mais sans devenir religieuse, c'est ça?
C'est ça, exactement. Alors, elle va vite rassembler des ouvrières autour d'elle elles vont prendre le nom de réparatrices du cœur de Jésus. Elle les rassemble pour avoir une vie de prière et de souci des pauvres dans leur quartier.
Parce que les filles d'industriels se sont envoyées vers les
oui.
milieux ouvriers,
d'accord. Oui. Elle, ça va être une première figure de l'engagement social, hein, dans l'Église au 19e siècle, puisque elle est à Lyon, est une ville qui, au 19e siècle, est une des villes très industrielles, voilà, où l'industrie va se développer. Vous savez, il y a la colline qui prie, la colline de Fourvière et la colline qui travaille. Hein, et donc, il y a un grand essor industriel. Et c'est pour ça que Pauline Marie Jaricot va être sensibilisée au sort des ouvriers. Il faut pas oublier qu'en 1831-1834, il y aura quand même deux insurrections dans la ville de Lyon. Alors, ce sera plus tard des milieux canus, c'est-à-dire des ouvriers de la soie, parce qu'ils travaillent dans des conditions épouvantables. Ils sont corvéables à merci, c'est-à-dire, il n'y a pas les 35 heures, ouais, on est loin de là. Ils vivent dans des conditions d'habitation, donc de travail. Et puis, les enfants des ouvriers ne vont pas à l'école des bons pères ou des bonnes sœurs ou des religieuses. Ça, c'est les filles de la bourgeoisie. On n'est pas à l'école de Jules Ferry, gratuite, laïque, obligatoire pour tous. Et donc, ne sont éduqués que les enfants de la bourgeoisie. Elle est sensible au sort de ces enfants des ouvriers qui sont utilisés comme tout simplement de la main-d'œuvre de l'industrie. Elle veut faire quelque chose pour eux.
D'accord. Donc, elle va vers elle et donc elle crée cette association de prière, en fait. Hein, c'est ça?
Oui. C'est-à-dire que, alors au début, c'est une forme de consécration privée. Hein, on dirait aujourd'hui une sorte d'institut séculier, vous voyez, de personnes qui vivent dans le siècle. Elles ne rentrent pas au couvent, elles ne fondent pas un institut religieux, mais elles se consacrent avec d'autres à une vie de prière et d'attention aux pauvres. Mais elle va être très vite sensibilisée aux missions, et aux missions lointaines en particulier, par son frère Phileas. Elle a un frère qui est séminariste au séminaire Saint-Sulpice à Paris, et qui se prépare à la mission ad extra, à la mission en Asie, à la mission en Chine. Et par lui, elle va être très vite sensibilisée à la nécessité pour l'Église d'annoncer l'Évangile aux confins du monde. Et donc, elle va regrouper des gens par dizaines qui vont être structurés par centaines et les centaines par milliers.
Parce qu'il y aura plus de 1000 personnes dans son
œuvre. Même plusieurs dizaines de milliers de personnes même.
Et là, c'est la deuxième période de sa vie, 1826-1844, c'est ça?
Non, c'est la première.
Pardon, on est toujours à la première partie,
c'est-à-dire que elle regroupe ces personnes pour prier pour les missions, mais aussi soutenir les missions par le sou hebdomadaire. Alors à l'époque, ça représente 5 centimes de la monnaie de l'époque, c'est très peu, mais
elle fait une quête.
C'est une espèce de quête de solidarité. Voilà, exactement.
D'accord. Ensuite, dans la deuxième partie de sa vie, 1826-1844, là, elle va avoir cette intuition qui nourrit encore les équipes du rosaire aujourd'hui, du rosaire vivant, de l'œuvre du rosaire vivant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Eh bien, puisque les ouvriers travaillent toute la journée, sont corvéables à merci, on n'est pas aux 35 heures, les ouvriers disent « on n'a plus le temps de prier ». Et la prière traditionnelle en particulier, c'est la prière du chapelet, du rosaire. On n'a même plus le temps de dire notre chapelet. Alors, Bonjarico dit « mais si vous vous regroupez par 15 et que chacun dit une dizaine, vous formerez un rosaire vivant ».
Donc chaque jour un rosaire, voilà. Grâce à ce travail c'est d'équipe. Ça.
Et donc Pauline et Marie Jaricot fondent les quinzaines du rosaire vivant, parce qu'il y a 15 mystères du rosaire à l'époque. Et donc si chacun dit une dizaine, vous formez un rosaire vivant. Et là, cette très belle parole, elle dit « Mettez 15 charbons, un seul bien allumé, 3 ou 4 le sont à moitié, et les autres pas du tout. Rapprochez-les, c'est un brasier ardent. » Et donc, vous voyez, là, c'est magnifique parce qu'elle a conscience, vous voyez, que dans l'Église, il y a des saints. On a fêté les saints il n'y a pas très longtemps, là, la fête de la Toussaint. Il y a à la fois des saints, puis il y a des gens plus médiocres qui auront une vie spirituelle qui sera moins zélée. Eh bien, c'est ça, l'Église.
Et on est là les uns pour les autres.
Hein. Et on y a notre place parce que c'est une Église de pêcheurs. Et donc, mais l'ardeur de l'un peut réveiller l'ardeur de l'autre. Mmh. C'est ça, cette idée de charbon. Vous avez un charbon bien allumé, 2 qui ne sont qu'à moitié et les autres pas du tout, eh bien, vous pouvez mettre le feu au monde.
C'est beau.
Voilà.
Et alors, c'est cette intuition que reprendra au XXe siècle un dominicain, le père Ekem. C'est-à-dire que cette femme laïque du XIXe siècle a des intuitions spirituelles, pastorales extraordinaires.
Oui, le père Ekem, en effet, quand il va fonder les équipes du rosaire en 1956, finalement, ne fait que reprendre l'œuvre de Pauline Marie Jaricot à travers les quinzaines du rosaire vivant. Il s'en inspire et d'une certaine façon, il les réactualise.
Les quinzaines, ça veut dire qu'il y a 15 personnes qui prient un mystère différent chaque jour, ce qui fait un rosaire complet.
C'est ça.
Qui a 15 mystères chaque jour. Voilà, c'est étonnant.
L'idée, c'est pas de dire chacun un rosaire seul, mais que ensemble, si chacun dit une dizaine chez lui, alors on a dit le rosaire, mais on l'a dit ensemble, pas chacun de son côté.
Et c'est ce qui va se passer. Les ouvriers vont créer des équipes et vont se mettre à prier.
Voilà, c'est ça.
Magnifique. Oui. Alors, son engagement ne s'arrêtera pas à la prière. Hein. Elle va essayer, avec ses biens, d'améliorer aussi concrètement, dans un engagement social, le sort de ces ouvriers qui souffrent.
C'est ça, elle est issue du grand patronat lyonnais et elle-même va devenir une chef d'entreprise. Donc elle va acheter les hauts fourneaux de Rustrel dans le Vaucluse et elle veut là être une patronne qui a le souci, une chef d'entreprise qui a le souci du sort de ses ouvriers. Elle ne veut pas qu'ils soient corvéables à merci, mais elle veut leur donner un certain horaire de travail. Mmh. Encore une fois, on est loin des 35 heures aujourd'hui, mais elle veut du coup les rendre, si leur travail est limité dans la journée, si on ne peut pas abuser de leur générosité, les rendre corvéables à merci, alors ils vont être plus disponibles pour leur vie de famille. Et non seulement pour leur vie de famille, mais aussi pour leur vie de foi, eux qui n'avaient plus le temps de prier. Et donc, elle dit d'ailleurs que pour améliorer la condition de la classe ouvrière, il faut rendre à l'ouvrier sa condition d'homme en l'arrachant à l'esclavage d'un travail sans relâche, sa dignité de père en lui faisant goûter les douceurs de la famille, sa dignité de chrétien en lui procurant les consolations et les espérances de la religion. En un mot, je voudrais qu'on rendît l'époux à l'épouse, le père à l'enfant et Dieu à l'homme.
Magnifique.
Et donc, voilà, les gens, ces ouvriers auront des heures de travail beaucoup plus précises, cadrées. Ils seront du coup plus disponibles pour leur vie de famille et pour la prière, en particulier la prière du rosaire en semaine en famille et la prière dominicale le dimanche en allant à la messe.
Et alors, elle va plus loin, là, dans une citation que vous m'avez communiquée, elle parle même de donner à un premier groupe d'ouvriers le moyen de se régénérer pour lui permettre de délivrer les autres ouvriers. Enfin, il y a une vision quasiment révolutionnaire dans le bon sens du terme,
oui.
Enfin, d'une réforme en tout cas.
Oui, alors c'est surtout qu'elle reprend l'idée de ce qu'elle a fait pour les équipes du rosaire. Elle s'imagine que si elle réussit à le faire dans son entreprise, ça va avoir un effet de propagation aux autres entreprises. Et donc, ça va améliorer la condition ouvrière. Évidemment, elle va échouer dans cette
oui, elle va être perspective-là, par
des gens malhonnêtes. Et donc, elle va finir dans une grande pauvreté. Mais elle avait ce souci d'améliorer le sort de la condition ouvrière. Vous voyez, on est quand même quelques décennies avant la première encyclique sociale de Léon XIII, Rerum Novarum, à la fin du 19e siècle, qui a cette attention à la condition ouvrière. Et d'une certaine façon, elle est une figure prophétique de cette attention de l'Église au sort des ouvriers, avoir un travail qui soit humain, pleinement humain.
Et on attend sa béatification, voilà, qui est imminente.
Alors le décret est tombé à la fin du mois de mai dernier. Mais la béatification sera célébrée dans le diocèse de Lyon. On ne sait pas quand encore, on n'a pas de date, mais on l'espère prochainement.
Merci beaucoup, frère François-Dominique Forquin. Je rappelle que vous êtes aumônier national des équipes du Rosaire. Merci de nous avoir présenté cette magnifique figure féminine et laïque, Pauline Jaricot. Chers auditeurs, je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et d'ici là, j'espère vous retrouver dans le mensuel Prier. Abonnez-vous, découvrez-le dans le petit film que vous trouverez sur le site Prier Magazine. Il vous propose aussi Prier au quotidien, un supplément avec l'évangile médité par les plus grands saints chaque jour. À très bientôt. Au revoir.